Les grands entretiens de Storia Voce.
On retrouve Omblin de Ternay.
Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. En plein cœur de la guerre de Cent Ans, tandis que la rivalité entre la France et l'Angleterre se poursuit, le royaume de France est traversé en son sein par un conflit entre deux parties, les Armagnacs et les Bourguignons. Joël Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Dans votre ouvrage « Armagnacs et Bourguignons, la fabrique de la guerre civile, 1407-1435 », que vous avez publié chez Perrin, vous présentez au lecteur les éléments qui ont conduit à cet affrontement que l'on a qualifié a posteriori de guerre civile. Qu'est-ce qui fait qu'un conflit interne au Royaume de France est possible alors même que les Anglais menacent l'intégrité territoriale du Royaume de France?
C'est une très bonne question. On s'interroge sur la guerre en général. On dit que la guerre vient de l'extérieur. Ici, il s'agit d'une guerre intérieure, intestine. Comme le dit le religieux de Saint-Denis, qui est un des meilleurs chroniqueurs du temps, il s'agit d'une guerre domestique qui oppose les princes du sang, hein, c'est-à-dire c'est une guerre fratricide d'une certaine manière. Et l'intérêt de s'interroger sur la guerre civile, qui est aussi l'intérêt de ce livre, c'était d'examiner comment naît la guerre civile, comment elle se développe, c'est-à-dire étudier la genèse de la guerre civile, la façon dont elle se développe avec ses rythmes, sa scansion qui est assez particulière. C'est une guerre qui a pour caractéristique d'être perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle est faite d'un cycle de violence et de réconciliation. De réconciliation, c'est ce qu'on appelle dans cette période chez les chroniqueurs du temps des paix fourrées. Qu'est-ce que c'est que fourré? C'est un terme qui est assez intéressant. Fourré, c'est un terme technique, c'est quand on fourre la laine pour faire d'un tissu deux pièces, par exemple. Donc c'est une paix fourrée, c'est une paix frauduleuse, c'est une paix qui n'est pas sincère. Et donc, à chaque fois qu'il y a une réconciliation, c'est une fausse réconciliation, et le cycle de violence recommence. Et il va se poursuivre pendant une bonne vingtaine d'années, pendant une bonne quinzaine d'années, jusqu'à ce que, en 1435, la paix d'Arras mette un terme quasi définitif à ces luttes entre factions. Donc la guerre civile, c'est bien différent de la guerre de Cent Ans. C'est un événement qui prend forme à l'intérieur de la guerre de Cent Ans, mais avec ses particularités, ses singularités. Et l'objet de cette étude, c'était justement de montrer comment, dans un contexte bien précis, dans un environnement bien précis, que vous avez bien décrit en parlant de la guerre de Cent Ans, cette guerre intestine prend forme et se développe. C'est en somme, d'une certaine manière, notre première guerre civile au Moyen-Âge, et elle sert, pour ainsi dire, de matrice ou de modèle pour les guerres civiles qui vont prendre par la suite forme tout au long du XVe siècle.
Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que le règne de Charles V, donc qui s'achève en 1380, laisse place à un équilibre si fragile, propice à la guerre?
Il y a d'abord son fils, Charles VI, mineur. il a 12 ans hein, quand Charles V meurt. Alors Charles V, sur son lit de mort, avait prévu certaines dispositions pour permettre à ses frères, hein, qui sont les princes du sang, de prendre en main, de gérer d'une certaine manière la régence, jusqu'à ce que le fils de Charles V soit en mesure de régner. Mais c'est un équilibre instable. C'est un équilibre instable parce que le Charles VI est mineur. Il est sacré, il est couronné tout de suite, mais bon, il ne prendra la pleine puissance de ses moyens que plus tard, en 1385. Pendant cette période-là de minorité de Charles VI, c'est déjà une période instable parce qu'il y a des révoltes populaires qui tiennent en particulier à la fiscalité. Hein, la question fiscale est une question très importante au Moyen-Âge et naturellement, bien souvent, le peuple se révolte contre des impositions trop fortes et il y a comme ça quelques frictions, il y a quelques conflits qui déstabilisent un peu ce début du règne de Charles VI, même si la personnalité du jeune Charles VI est une personnalité assez brillante. Parce que c'est un prince guerrier hein, qui a envie de se battre. Il remporte d'ailleurs une victoire éclatante sur les communes flamandes en 1382. Donc il a une certaine stabilité, mais quand même, l'emprise de ses oncles, l'emprise des princes, le contexte international que vous avez souligné, les révoltes populaires un peu partout dans le royaume ont tendance à déstabiliser, à déséquilibrer hein, ou à instaurer un équilibre fragile dans ce début du règne de Charles VI.
Donc sûrement favorable à la naissance des partis. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qui sont les Armagnacs et les Bourguignons?
Alors, les Armagnacs et les Bourguignons, il faut d'abord, pour bien mettre en perspective les choses, il y a un moment important dans le règne de Charles VI qui est le moment où il sombre dans la folie. Un coup de folie dans la forêt du Mans en 1392, il perd toute lucidité et il est bien évident que à partir de ce moment-là, le royaume est sans roi. Hein, il n'y a pas d'autorité pour ainsi dire légitime et on peut comprendre que dans ces circonstances, dans ce contexte, des rivalités haineuses, mortelles même, vont se développer entre différentes, je ne parlerai pas de parti parce que ça a une connotation un peu moderne, mais des factions hein, qui se regroupent autour de leaders qui ont une vraie personnalité et qui vont, pour ainsi dire, entraîner la jeunesse de cette guerre civile, hein, de cette guerre intestine. Alors, on a deux factions. On a les Orléans, qui sont regroupés, ou encore on les appelle les Armagnacs, hein, parce que du nom de Bernard d'Armagnac, qui est le beau-frère de Louis d'Orléans. Donc la personnalité le leader, c'est Louis d'Orléans. Et de l'autre côté, du côté des Bourguignons, on a Jean sans peur, hein, qui est son cousin, ils ont deux tempéraments différents. Et ça, les historiens ont bien souligné cette dimension personnelle hein, de cette hostilité qui va se transformer bientôt en une haine profonde, hein, mortelle, comme disent les textes. Il y a Louis d'Orléans qui est un personnage extrêmement brillant, c'est le frère de Charles VI, cultivé. Est une belle éloquence hein, et qui a autour de lui un cercle d'intellectuels qui forme une sorte de cour. C'est quelqu'un en plus qui a des idées bien précises sur la façon dont le royaume doit être dirigé. Et en face, vous avez Jean sans peur, qui lui est plutôt un taiseux, un taciturne. Bernard Guenier, qui est le grand spécialiste de cette histoire de Charles VI, disait que Jean sans peur est aussi laid que Louis d'Orléans est beau. pour vous dire la différence de caractère. Il ne faut pas non plus trop stigmatiser Jean sans peur. Jean sans peur, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un pragmatique. C'est aussi un démagogue. Il ne faut pas oublier que le duché de Bourgogne, le duc de Bourgogne, il a en effet le duché de Bourgogne, mais il a également l'emprise sur la Flandre. Et donc Jean sans peur a cette qualité très appréciée d'entretenir des relations avec les communes flamandes, c'est-à-dire qu'il a, il sait comment dialoguer avec les communes flamandes. Et ça, c'est important parce que dans cette guerre civile entre factions orléanaises et bourguignonnes, Jean sans peur aura l'avantage de pouvoir, entretenir avec les Parisiens, avec les villes en particulier, une relation privilégiée. En particulier, il sera aidé à réformer le royaume en diminuant des taxes. C'est un discours qui plaît beaucoup, naturellement, au sujet du roi. Il sait comment s'y prendre. Et c'est tout le contraire, en fait. C'est tout le contraire d'un Louis d'Orléans, qui, lui, est un aristocrate brillant et plutôt attaché à la prééminence féodale, enfin, à sa qualité princière. Donc, nous avons là, si vous voulez, deux tempéraments différents qui permettent d'expliquer en partie les oppositions, les frictions entre ces deux factions. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont des horizons différents, des horizons politiques différents. Jean sans peur, avec les Anglais, une relation particulière. Il ne faut pas oublier que la laine anglaise sert à fabriquer des tissus qui sont tissés dans les communes flamandes. Donc il a un rapport, il entretient avec les Anglais un rapport privilégié, alors que lui, Louis d'Orléans, lui, c'est l'affrontement. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut bouter les Anglais hors de France. Et donc il y a, si vous voulez, des stratégies politiques et diplomatiques qui sont différentes et qui expliquent également les oppositions que l'on observe sur le terrain.
Oui, et donc on voit bien qu'il y a des enjeux territoriaux, des enjeux politiques. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'un basculement dans la guerre civile? Quel événement marque un basculement?
Alors le basculement, c'est l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans peur en 1407, c'est ça. C'est un événement considérable. Pourquoi ? Parce que Louis d'Orléans est le frère du roi, donc c'est un crime de lèse-majesté. On sait comment les choses se sont passées. Jean sans peur quitte l'hôtel de la reine Isabelle de Bavière, rue Barbette, et entre dans la rue Vieille du Temple, accompagné de deux ou trois valets. Et puis là, il est agressé violemment par un groupe de meurtriers, de tueurs, le poignard, qui lui font éclater la cervelle et qui lui coupe surtout la main droite. C'est d'ailleurs l'illustration que l'on a sur la couverture du livre. Donc c'est un acte violent et symboliquement très 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 violent. Le prévôt de Paris, juste après l'événement, enquête. Et qui est le meurtrier? Bien, le meurtrier, il avoue son crime. C'est Jean sans peur qui, le lendemain, va voir ses frères et lui dit, ben voilà, c'est moi qui ai tué Louis d'Orléans. J'ai été poussé par le diable. C'est le diable qui m'a poussé à accomplir ce crime. Et donc les frères, les oncles lui disent, tu pars, tu t'en vas, tu restes pas à Paris, on ne veut plus te voir. Et il part dans le nord. Et c'est là qu'il prépare sa justification, hein, qui est le moment fort de ce conflit entre Armagnac et Bourguignon. C'est le début d'une controverse, hein, sur ce qu'on appelle le tyrannicide, c'est-à-dire Jean sans peur, aidé d'intellectuels de haut vol, va essayer d'expliquer devant la cour pourquoi il était légitime de tuer Louis d'Orléans. Et c'est un texte très important, parce que c'est un texte très, très argumenté. On sait que, d'après la Bible, enfin, non occides, tu ne tueras point. Donc, comment expliquer, comment justifier que l'on a le droit, que l'on puisse tuer ainsi le tyran? Et Jean Petit va développer devant la cour une justification très argumentée, avec une majeure selon la façon très scolastique de faire à cette époque-là, une majeure, c'est-à-dire un argument principal. La cupidité est à l'origine de tous les maux, et une mineure dans laquelle il va égrener, décliner tous les éléments qui font que Louis d'Orléans avait cédé à cette cupidité. En particulier, Louis d'Orléans dilapidait le trésor royal, mais plus grave, c'était un hérétique. Hein. Par exemple, pour donner un exemple assez frappant, il portait à même la peau un talisman qui lui avait été donné par le diable. Hein. Et il portait à la main un anneau qui lui avait été aussi donné par le diable et qui, quand on le touchait, permettait de séduire toutes les femmes. Bon, il y a donc toute une argumentation, tout un ensemble, si vous voulez, d'arguments qui constituent des mineurs qui, d'une certaine manière, appuient cette idée qu'il est légitime de tuer un tyran. Et alors, c'est pas fini, parce que quelques mois après, naturellement, l'épouse de Louis d'Orléans, Valentine Visconti, alors on avait accusé aussi Louis d'Orléans d'être un empoisonneur, parce qu'il avait épousé Valentine Visconti, donc il avait des relations avec l'Italie. Donc Valentine Visconti se présente avec ses enfants devant la cour, habillée de noir, en deuil, et demande au roi, eh bien, écoutez, rendez-nous justice, mon mari a été... Et alors là, on a une contre-justification qui est le pendant de la justification, qui est présenté par l'abbé de Cerisé, et qui consiste à inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que l'hérétique, le maudit, n'est pas Louis d'Orléans, mais Jean sans peur. Cette controverse très argumentée constitue le dossier clé, pour ainsi dire, de cette guerre civile. Parce que non seulement, parce que idéologiquement, si vous voulez, il cristallise toutes les opinions, tous les arguments autour du thème de la lèse-majesté et de la majesté royale. Donc c'est quelque chose de très important que ce débat idéologique et que cette controverse.
Et justement, puisque vous évoquez les aspects religieux, quel lien on peut faire entre le grand schisme d'Occident et la guerre civile qui prend place?
Alors, il y a dans cette séquence historique, il y a ce que vous avez bien indiqué, la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire le conflit anglais qui est toujours présent, et qui est d'autant plus présent que le roi étant fou, les absences du roi fait que bon, il n'y a plus d'autorité légitime, et les Anglais vont naturellement profiter pour entrer et envahir le territoire. Mais il y a aussi une autre temporalité qui est la question religieuse, à savoir le schisme. Le schisme, le grand schisme d'Occident, on sait ce que c'est en 1378 l'élection d'Urbain VI qui se tient à Rome, qui se passe dans des conditions très mauvaises, les cardinaux quittent Rome et élise un autre pape, Clément VII, c'est ça, et donc à partir de ce moment-là, on a un pape et un antipape. C'est le début du schisme qui va durer naturellement pendant plusieurs dizaines d'années. Et le lien avec, si vous voulez, la guerre civile, c'est que chacun des partis va prendre parti pour l'un ou l'autre pape. Et non seulement cela, mais n'arrivant pas à décider qui est coupable du crime, on va exporter le procès, hein, devant le concile à Constance. C'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, une implication indirecte entre la guerre civile et le schisme. Et toute la difficulté, pour ainsi dire, de ce livre était de pouvoir mener de manière simultanée ces différentes temporalités.
Et donc, dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ordonnance de Simon Caboche, Comment naît l'idée de réforme? Alors, et finalement, quelle est la place de Paris aussi dans cette...
Paris a une place très importante, naturellement, majeure, capitale, parce que c'est la capitale du royaume, mais c'est là que tout se passe. Hein. Et c'est là que se déclenche la révolte populaire. On en trouve aussi en province, mais c'est vraiment à Paris que ça se passe. Et Paris est au centre d'un débat qui n'est pas nouveau, qui est celui de la réforme. La réforme, c'est un peu un mot magique, c'est-à-dire comment bien gouverner le royaume, en instaurant un dialogue entre le roi et ses sujets, en imposant modérément les sujets, en leur demandant leur accord, quand il s'agit de faire la guerre ou des choses comme ça. Bon, ce besoin de dialogue, il s'exprime dans les États généraux, il s'exprime aussi dans des révoltes populaires, et la situation politique étant extrêmement instable et complexe, on comprend les factions se développant, on comprend qu'il y ait à Paris des tendances opposées avec ce qu'on pourrait appeler des radicaux, hein, des extrémistes, et une tendance modérée, hein, qui appartient, bon, on parle de l'université ou de la haute bourgeoisie. Et donc, Paris est le centre de désordre, hein, avec des crispations, avec des crises aiguës, des violences très violentes, pour ainsi dire, au cours duquel les émeutiers s'en prennent pas simplement aux leaders d'une ou de l'autre faction, mais s'en prennent carrément à la cour, au roi et à sa suite. Hein. On emprisonne des gens qui sont dans l'entourage du roi. Hein. Donc c'est des actes extrêmement violents. Et les leaders de ce mouvement sont ce qu'on appelle les cabochiens, qui appartiennent à la corporation des bouchers parisiens, qui est une corporation très forte, très puissante, avec à sa tête Simon Caboche, d'où le nom de cabochien. Ils ont l'aval plus ou moins de Jean Sans Peur, qui sait entretenir cette démagogie parce qu'elle se tourne, ces extrémistes s'en prennent au parti de la faction opposée, les Orléans. Et on a tout au long de ces années des mouvements des poussées, hein, paroxystiques de violence, au cours desquels d'ailleurs on s'aperçoit que Jean Sans Peur est souvent débordé par ces éléments radicaux. Hein, donc Paris est au centre, hein, de cette effervescence populaire. Alors il y a la date de 1413, hein, au cours de laquelle, bon, au début 1413 dans les États généraux, et puis dans le courant de l'année 1413, les exactions commises par les éléments les plus radicaux, hein, de la population, suivies comme toujours d'un renversement, c'est-à-dire d'un retour à la paix avec corriger et punir, c'est-à-dire le roi ou ce qu'il représente, hein, reprennent l'autorité et arrivent à éliminer ces éléments radicaux. Mais vous avez tout à fait raison de montrer que Paris est un enjeu. Parce que qui a Paris, celui qui possède Paris, a aussi la main sur le roi, et donc a une certaine forme de légitimité. Hein, donc c'est très important de voir comment se passent ces mouvements, ces déplacements entre les princes pour essayer de capter, hein, l'attention et la bienveillance des Parisiens.
Et donc est-ce qu'on peut dire que la suppression de l'ordonnance de Simon Caboche marque le début de la modération, en quelque sorte, de la guerre civile?
Oui et non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cycle. Et donc les réconciliations sont tellement peu convaincantes que la violence reprend, et on aura un autre moment extrêmement violent, peut-être encore plus violent que celui de 1413. C'est lorsque Jean Sans Peur va rentrer dans Paris en 1418. Alors c'est après la défaite d'Azincourt, c'est-à-dire c'était après la défaite des Français devant les Anglais à Azincourt, le vide politique est encore plus évident, et Jean sans peur va rentrer dans Paris et éliminer physiquement, on peut dire, la plupart des partisans, des Armagnacs et des Orléans. En particulier, ils vont tuer un certain nombre d'intellectuels extrêmement brillants qui constituaient qui était la sève du premier humanisme en France. Donc vous voyez qu'on a 1413, mais 1418 est aussi un acte, un cycle de violence. Et puis il y a aussi 1419, où là, l'assassinat de Jean sans peur est un nouveau coup extrêmement violent. C'est la réponse à 1407, l'élimination de Louis d'Orléans. Donc là, vous voyez que la guerre civile continue et ne s'arrête pas. Et les ordonnances, qui sont nombreuses d'ailleurs, parce que il y a quand même un conseil. Le roi est absent, mais c'est le dauphin qui le représente avec un conseil. Il est entouré d'un conseil où l'on trouve les princes du sang qui s'opposent, mais également des conseillers modérés, comme vous disiez, qui prennent des ordonnances pour essayer de calmer le jeu, pour essayer de désarmer. Surtout les émeutiers, mais ces ordonnances, elles sont sans effet. Donc on les multiplie, mais la guerre civile continue. C'est-à-dire c'est un mouvement perpétuel, en somme.
Oui. Et vous parlez de l'opinion publique à ce moment-là. Donc qu'est-ce que ça désigne, l'opinion publique au Moyen-Âge ?
Alors l'opinion publique, c'est un terme très ambigu, il faut faire attention, parce que c'est un terme, le terme d'opinion... On serait plutôt tenté de l'appliquer à partir du 18e, lorsqu'il y a effectivement une critique du pouvoir mieux argumentée. Disons qu'il y a, alors utilisons le terme d'opinion, effectivement, ou des sentiments, par exemple vis-à-vis de Charles VI. Prenons Charles VI, le roi fou. Bon, l'opinion populaire, les populaires, comme on les appelle, aiment leur roi. Ils aiment leur roi, le bon roi Charles VI, ou le Charles VI le bien-aimé. On sait qu'il est malade, on sait que ses absences sont de plus en plus nombreuses, parce qu'au début, bon, il y avait des rémissions, et puis ensuite, la maladie s'est installée, et puis on s'est, pour ainsi dire, habitué ou familiarisé avec cette maladie, mais les populaires gardent un bon souvenir de Charles VI, et lorsque les Anglais débarquent en France, lorsque Henri V entre à Paris, le peuple pleure. Pourquoi ? Parce que le roi est abandonné, est délaissé. Il est abandonné, il est laissé, pour ainsi dire, dans un état tout à fait misérable, sans avoir de finances, sans avoir le moyen, pour ainsi dire, de continuer à avoir un état princier, une espèce de déréliction de Charles VI. Et là, le populaire pleure le souvenir de ce bon roi.
Oui, ils ne sont pas forcément restés sur le souvenir du bal des Ardents, par exemple.
Oui, le bal des Ardents, alors c'est compliqué, parce que le bal des Ardents, c'était en effet c'était quoi ? C'était un charivari, on se souvient. Le bal des Ardents, c'était un an après la folie de Charles VI. Il s'agit de célébrer un événement, il s'agit du remariage d'une veuve. Donc ça, c'est un événement, naturellement, qui donne souvent lieu à des festivités, avec des excès. Alors, le roi, avec un certain nombre de ses compagnons, se déguise en homme sauvage. Ils s'enduisent de poids, et puis ils entrent dans une pièce, là où se trouve la cour, et ils commencent à faire une espèce de mascarade. Et à ce moment-là, bon, il y a Louis d'Orléans, son frère, qui rentre dans la salle avec un valet, et il essaye de reconnaître les personnages qui sont ainsi déguisés. Il demande à un valet, bon, approche ta torche là, pour que je vois, et c'est là que il s'enflamme. hein, et que ils sont brûlés, le roi arrive à s'en sortir. Hein. Donc là, en effet, il y a... ça a servi, en particulier ce charivari, cette séquence absolument grotesque. On a dit tout de suite, attention, c'est Louis d'Orléans qui a voulu tuer son frère. Un argument de plus, naturellement, pour dénoncer son pouvoir, hein, et l'accuser du point de vue des Bourguignons. Donc, vous voyez, un ensemble d'événements est parfois difficile, difficile à expliquer, parce que tout ça est pour ainsi dire, se produit en même temps avec des contradictions, si bien que souvent les historiens ont parlé d'une période complexe, d'une séquence historique complexe, voire confuse. Mais je pense que il était important de décomposer, de démonter le mécanisme de cette guerre civile. Et c'est ça finalement l'objet de ce livre, en entrant dans les détails et en essayant de trouver, pour ainsi dire, une logique, une rationalité dans un ensemble d'événements qui sont irrationnels, pour ainsi dire.
Et est-ce qu'on peut dire que les Anglais, finalement, profitent de cette situation de guerre civile en France pour faire de la récupération politique, pour favoriser des alliances qui leur permettraient de s'emparer du royaume ?
Ah ben absolument. Il y a en particulier il y a toujours cette volonté du roi d'Angleterre d'obtenir la couronne, hein, parce que héréditairement il a une légitimité, puisque Henri Édouard III, l'ancêtre de Henri V, était par sa mère et avait pour ainsi dire une légitimité à avoir le royaume de France. Ils ont continué, les Anglais, à exiger, pour ainsi dire, la couronne et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire les territoires et, sans ressort et sans en pleine souveraineté. Donc il y a ce point. Il y a aussi le fait que ça a entraîné cette guerre civile, un rapprochement entre les Bourguignons et les Anglais, hein, une sorte de liaison dangereuse, que j'appelle les liaisons dangereuses entre les Anglais et une des deux factions qui étaient les Bourguignons, pour des raisons économiques que je vous ai expliquées. Et l'idée, c'était, pour ainsi dire, c'est ce qu'ont assez bien expliqué les historiens, c'était de faire une espèce de vaste territoire, hein, de l'Angleterre, en passant par le nord de la France, les communes flamandes, l'Empire, bon, tout ça aux dépens du Royaume de France. Hein. Donc, très certainement, les Anglais ont eu une opportunité et ont agi par opportunisme. C'était évident. Enfin, il y avait un vide, hein, il y avait une absence d'autorité. Et le roi d'Angleterre, Henri V, était un roi très, très prudent, très sage. Hein, c'était un bon roi. Hein, et il a su utiliser, pour ainsi dire, les circonstances, hein, pour avancer ses pions.
Et alors, dans ce contexte, quelles sont les conséquences de l'assassinat de Jean sans Peur ?
Alors, les conséquences de l'assassinat de Jean sans Peur, elles sont terribles, parce que l'assassinat de Jean sans Peur va faire basculer les Bourguignons, justement, du côté des Anglais. Il y a un désir de réparation. Assassiner un prince, eh bien, c'est une atteinte à l'honneur. Et l'honneur est une valeur forte, hein, au Moyen-Âge. Donc on demande réparation. On demande réparation. Et toute la fin de cette guerre civile, jusqu'à 1435, c'est-à-dire le traité d'Arras, tout cela va, la conduite des Bourguignons va être motivée par ce désir de réparation. Réparer le meurtre de Jean sans Peur, c'est ce que va demander Philippe le Bon, par des acquisitions territoriales, par toutes sortes de mesures. Et là, nous sommes, pour ainsi dire, si vous voulez, dans une représentation très forte de ce qu'est l'honneur au Moyen-Âge, à savoir parle, c'est cette demande de réparation. Un désir de, oui, on peut dire de vengeance, d'une certaine manière, mais surtout de réparation. Voilà.
Et finalement, est-ce qu'on peut dire que, à la signature justement du traité d'Arras, entre les Armagnacs et les Bourguignons, il y a un gagnant ou un perdant ?
Il y a un perdant, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais parce que, entre-temps, il y a eu l'épisode Jeanne d'Arc. Il y a eu le roi de Bourges, Charles VII, qui, bon, qui a mis du mal, pour ainsi dire, à se relever, enfin, et qui a gagné en confiance, et qui a su, grâce à des médiateurs ou des médiatrices, rétablir le dialogue avec le duc de Bourgogne, qui est quand même appartient à la famille royale, donc il y avait la nécessité de se rapprocher. Et le traité d'Arras en 1435, eh ben, met un terme à l'alliance anglo-bourguignonne, fait se rejoindre Bourguignon et le futur Charles VII, et c'est à ce moment-là que le terme d'Armagnac disparaît du vocabulaire politique, c'est-à-dire qu'on avec la disparition du terme d'Armagnac disparaît pour ainsi dire la guerre civile et cette atmosphère de factions, de conflits domestiques et fratricides.
Et comment est-ce que Jeanne d'Arc a été perçue à son époque ?
Alors Jeanne d'Arc, il faut noter d'abord que l'épisode Jeanne d'Arc ne marque pas un arrêt. Hein. Je veux dire que la guerre franco-anglaise a continué, le conflit a continué. Mais Jeanne d'Arc incarnait l'espoir. C'est-à-dire, il y avait aussi cette idée, si vous voulez, qui est associée à la représentation de Jeanne d'Arc, l'idée de prophétesse, de prophétie. Comme le dit joliment Philippe Contamine, Jeanne d'Arc est prophétesse et c'est la seule qui accomplit sa prophétie, puisqu'effectivement elle sacre le roi à Reims. Donc c'est une ambiente, c'est une, si vous voulez, c'est un imaginaire qui s'ajoute à ce que l'on voit, qui d'une certaine manière pacifie les choses et redonne espoir. Oui, incontestablement, il y a un effet Jeanne d'Arc, même si il faut attendre 1435, donc quelques années après la mort de Jeanne d'Arc, pour que le conflit s'apaise.
Bien Joël Blanchard, merci d'être venu au micro de Storia Voce. Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr parler de nous autour de vous. Merci beaucoup.